Bonjour et bienvenue, je suis Sonia Oulad Ben Saïd sur IDFM Radio et à la technique Francky. Excellente journée sur IDFM Radio, sur le 98 FM, sur idfm98.fr pour le site internet et l'appli IDFM Radio. Vous écoutez l'émission Tous les droits, l'émission qui répond à toutes vos questions d'ordre juridique. Selon le célèbre adage, nul n'est censé ignorer la loi. Mais force est de constater que les lois changent régulièrement, se complexifient et que chaque cas est unique. Alors, pour vous aider à y voir plus clair, je recevrai chaque mois des avocats du barreau du Val-d'Oise qui répondront à toutes vos questions, chacun dans leur domaine d'intervention respectif. Mes invités du jour sont tous avocats en droit civil et en droit de la consommation et je les remercie vivement d'être venus partager cette matinée avec nous. Bonjour, maître Julie Gaspari.
Bonjour Sonia.
Votre cabinet est situé à Pontoise et vous répondrez aujourd'hui aux questions des auditeurs sur les litiges, notamment avec les compagnies aériennes. À la veille des vacances ou après les vacances, c'est sympa de connaître ses droits quand on a des galères avec les compagnies aériennes. Et des questions relatives aussi aux litiges avec les opérateurs téléphoniques.
Tout à fait.
À vos côtés, maître Vincent Paella.
Bonjour maître Oulad.
Bonjour maître Vincent Paella. Vous êtes associé du cabinet Altesia, situé à Enghien-les-Bains. Absolument. Vous exercez en droit des assurances, droit immobilier, responsabilité civile. Et vous répondez aujourd'hui aux questions des auditeurs sur les contrats CCMI.
Absolument.
Vous nous expliquerez ce que veut dire CCMI. Les litiges qui peuvent survenir dans le cadre d'une vente immobilière et également des questions que nous avons reçues sur le crédit à la consommation. Merci d'être venu dans cette cinquième émission de Tous les droits. Et enfin, maître Sébastien Balzareni-Nouakovitch, bonjour.
Bonjour.
Un habitué de l'émission Tous les droits. Merci d'avoir accepté une nouvelle fois de participer à cette émission.
Avec plaisir.
Votre cabinet est situé à Enghien-les-Bains. Donc oui. J'ai deux avocats enghienois, ça joue à domicile là, aujourd'hui sur cette émission. Vous exercez en droit civil et en droit de la consommation. Et vous répondez aux questions des auditeurs, notamment sur les précautions à prendre lorsque l'on envisage de confier à une entreprise le soin de réaliser des travaux et sur les droits des consommateurs lors de la souscription de contrats lors d'une foire. Merci à tous les trois d'avoir répondu à mon invitation. Cette émission est bien sûr à retrouver en podcast sur le site idfm98.fr ou sur notre appli IDFM Radio. Et tout de suite, je me tourne vers vous, maître Julie Gaspari.
Bonjour.
Est-ce que... Rebonjour.
Rebonjour.
On se salue beaucoup ce matin. En préambule, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu votre parcours? Comment vous êtes devenu avocat? Quand vous avez prêté serment? Racontez-nous un peu votre histoire à vous.
Oui, alors assez classiquement, effectivement, j'ai fait un master de droit. J'ai fait ma licence de droit à l'université de Cergy-Pontoise. Et puis ensuite, mon master de sciences criminelles à l'université de Nanterre. Et j'ai ensuite passé le concours pour devenir avocat, donc pratiquement presque 2 ans à l'école d'avocat de Versailles, enfin de Viroflay plus exactement, pour ensuite passer ce qu'on appelle le CAPA et devenir avocat. J'ai prêté serment en 2012. Voilà, ça fait quelques années maintenant.
Je suis en train de compter.
Ouais.
Hier, c'était hier.
C'était hier, tout à fait. Et puis voilà, ensuite je suis devenue collaboratrice dans un cabinet à Pontoise, dans lequel nous étions ensemble, il me semble, maître Oulad.
Bien sûr, l'école du barreau, l'école.
C'est là, et maître Paella aussi.
Et maître Paella aussi,
absolument.
Exactement.
Voilà, donc mes premières armes étaient dans ce cabinet, et puis ensuite, fil en aiguille, je suis finalement décidée de me mettre à mon compte. Et donc j'exerce seule depuis 2019, mais bon, là je suis en partenariat rapproché avec maître Delpla Antoine et maître Ventura Aurore, voilà, avec lesquels il y a des discussions pour pouvoir travailler ensemble.
Et maître Aurore Ventura, que nous avons donc reçu lors de la précédente émission, le 2 décembre dernier, qui est intervenu sur le droit des sociétés et des entreprises en difficulté. Elle nous a parlé de l'URSSAF, notamment, et du ex-RSI. Voilà.
Voilà.
Et donc, vous intervenez dans quelle matière, vous, maître Gaspari?
Alors, j'interviens beaucoup en droit de la famille, de manière générale, divorce, hors divorce, séparation. Je suis aussi avocat des mineurs, donc je fais partie de du groupe mineur du barreau du Val-d'Oise. Et j'interviens aussi en droit civil de manière générale, plus précisément lorsqu'il y a des conflits, ce qu'on appelle la responsabilité contractuelle, des conflits ou de voisinage ou avec son opérateur ou parce que on a, comme vous avez dit tout à l'heure, des galères avec sa compagnie aérienne. Enfin voilà, ce qu'on, le droit civil, le contrat en général.
Très bien. Et c'est sur cette expertise-là que vous allez répondre aux questions des auditeurs. Merci, Maître Gaspari. Maître Vincent Paella, avec qui j'ai travaillé au sein d'un grand cabinet valdoisien il y a quelques années. Est-ce que vous pourriez également
c'était
nous...
C'était hier.
Je dis quand même beaucoup, c'était hier. À chaque fois, je reçois des invités qui ont prêté serment il y a plus de 10 ans. Alors, Maître Vincent Paella, est-ce que vous pourriez pareil nous parler de votre parcours, comment vous êtes devenu avocat?
Oui, alors j'ai prêté serment en 2005, mais avant j'ai fait mes études de droit à l'université de Nanterre, en terminant par un DEA, ce qu'on appelle un DEA chez les vieux, puisqu'aujourd'hui je crois qu'on parle de Master 2, DEA en droit privé, avec une spécialisation en droit bancaire, voilà. Donc j'ai passé mon examen d'entrée à l'école d'avocat, j'ai eu mon CAPA en 2004 et j'ai commencé à exercer la profession d'avocat en 2005, au barreau de Paris d'abord, puis au barreau du Val d'Oise, où nous nous sommes rencontrés un petit peu plus tard, je crois aux alentours de l'année 2010, quand j'ai rejoint ce gros cabinet dont on parle depuis tout à l'heure. Et puis, je me suis installé après pas mal d'années, on va dire, puisque je me suis installé à la fin de l'année 2017 avec mon associé actuel, Laetitia Gernaise, à Enghien-les-Bains. Voilà.
Et donc, votre cabinet Altesia, donc il est situé à Enghien-les-Bains.
Absolument.
Et vous exercez dans quel domaine d'activité
Alors, moi, je fais principalement du droit immobilier, qui assez vaste, hein, puisqu'on parle à la fois de droit de la construction, on parle aussi de droit de la vente, on fait aussi également pas mal de baux, notamment d'habitation, et puis pas mal de droits des assurances, qui ont parfois un lien avec le droit immobilier, mais pas toujours. Donc c'est toujours assez intéressant, puisque c'est assez varié. Et puis également du droit de la responsabilité civile professionnelle. Et puis de temps en temps, je fais un petit peu de droit pénal, parce que là, ça me change un petit peu les idées.
Oui, je comprends. C'est important des fois de faire d'autres matières.
Absolument.
Peut-être à titre anecdotique, mais c'est important aussi en tant qu'avocat. Et puis souvent, je pense que c'est ce que fantasment les étudiants en droit. Quand on va être avocat, on s'imagine toujours être un grand pénaliste. Et puis après, voilà, on se spécialise et puis on fait d'autres matières. Et puis des fois, c'est les clients qui vous choisissent dans des domaines d'intervention dans lesquels vous ne pensiez pas un jour travailler. Et voilà, c'est comme ça. Donc merci pour cette présentation de votre parcours. Je précise donc que vous êtes associé avec Maître Laetitia Gernaise,
oui,
que j'ai également reçu à ce micro en droit de la famille. Voilà. Et Maître Sébastien Balzarini-Nouakowicz, est-ce que vous pourriez vous aussi vous présenter, même si les auditeurs vous connaissent déjà, mais je suis sûre que notre audience qui augmente sera ravie que vous lui rappeliez votre parcours.
Avec plaisir. Donc, comme je disais la dernière fois, et donc pour les nouveaux auditeurs qui sont bienvenus, et c'est bien que cette émission soit de plus en plus écoutée, puisque c'est important de connaître ses droits, c'est important de savoir se défendre, et il y a tellement de choses à apprendre. Donc moi, j'ai fait un parcours plutôt de procédure. Mon truc, c'est la procédure, apprendre la procédure pénale, la procédure civile. Pour moi, à partir de la procédure, on apprend tout. Et dans mon activité, en fait, je suis un peu né dans le métier. Je suis tombé dans le chaudron quand j'étais petit, en quelque sorte, puisque ma mère est avocate assez connue, Maître Sylvie Novakovic. Et en fait, en réalité, dès mon plus jeune âge, elle m'a amené voir des procès, elle m'a amené voir des gardes à vue quand elle n'avait pas le choix, j'allais au cabinet quand je sortais de l'école primaire, voilà, je suis tombé dans le cabinet, et loin de m'en dégoûter, j'en ai fait mon métier, et je suis ravi de pouvoir aider les gens, et finalement c'est vraiment cette fibre-là de pouvoir aider les gens qui ont des problèmes, qui m'a fait passer le cap, et venir dans ce métier. Aujourd'hui, principalement, j'ai une double casquette. Une casquette en droit civil général, principalement droit de la construction, et une casquette en droit pénal. Beaucoup de droit pénal criminel, mais droit pénal général, je fais un peu de tout. En tout cas, c'est cette double casquette-là que je trouve, pour moi, très enrichissante, parce que souvent, les deux matières se recollent. Et il faut absolument connaître le civil pour bien faire du pénal et vice-versa, parce que le pénal, c'est la condamnation, mais c'est aussi obtenir des dommages et intérêts, c'est aussi obtenir réparation. Et en fait, en réalité, tout est lié.
Vous avez raison de le rappeler, quand on est étudiant et après quand on se forme à l'école d'avocat, la base c'est le droit des obligations, la procédure civile qui est la base et ensuite on se spécialise et donc vous avez raison de le rappeler. Je vous avais reçu à l'époque en droit de l'immobilier. D'ailleurs une émission qui est retrouvée en podcast sur le site internet de la radio. Merci à tous pour vos présentations, pour nous avoir partagé vos actualités. On se retrouve après une pause musicale pour la suite de l'émission.
Autant des paumes et laptops et des autobots. Rendez-vous au burger ou au magasin coq. Sur l'écran plein, c'est du hip-hop top. Yo, MTV rap, Madonna et RuPaul. Le fleuron de l'époque était le starter. Primo, gourou, Michael Schumacher, avant-gardiste, autant d'Optimus. Je vendais des bootlegs de Biggie Opus. Certains m'appelaient le joueur de Tetris. Archéo puriste, super futuriste. Moi qui croyais que tout était figé. Une Porsche vient de se transformer. On nous informe que tout se transforme comme les Autobots et les Decepticons. On nous informe que tout se transforme comme les Autobots et les Decepticons. Je roule vers la tour avec Bumblebee. On m'a dit plus tard ce soir c'est de la folie. Y'a des sports de tout style. Paix à Daniel, il te frappe en diagonale parce qu'il fait du padel. Zinedine Zidane, l'attaque en pyromane a capturé l'étoile et redoré la flamme. Y'avait dans la tête des fans de la Schiffer. Au kebab d'à côté c'était pas qu'on burger. J'te parle du temps, du wesh la famille. Du club Dorothée, de Rémi sans famille. Ben oui, maintenant y'a la wifi. Face à la Joconde on fait des selfies. On nous informe que tout se transforme comme les Autobots et les Decepticons. On nous informe que tout se transforme comme les Autobots et les Decepticons. Et comme Michael, I remember the time de Wimpy, oh Kitsch, Quick et Free Time. Je n'ai pas vu Vegas depuis la mort de Tupac. Si tu comptes en année, c'est 21 plus 4. Je voulais être Mirage, un peu puis beaucoup. Des coups de boule et de coude, il en a mis beaucoup. Encore un effort et je deviendrai plus fort que J.J. Okocha dans l'équipe de Francfort. Il faut pas que j'ai lutte que dans la banlieue sud. Beaucoup lâcher les études pour aller vers le sud. It's over, n'appelez pas le sauveur. Pour la terre promise, on a le Range Rover. On nous informe que tout se transforme comme les Autobots et les Decepticons. On nous informe que tout se transforme comme les Autobots et les Decepticons.
C'est tous les droits sur idfm.fr, aujourd'hui consacré au droit civil et au droit de la consommation. Avec à mes côtés, maître Julie Gaspari, maître Vincent Paella, maître Sébastien Balzarini-Nouakovic. Nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Avec maître Julie Gaspari, nous avons reçu de nombreuses questions qui vont nous permettre d'aborder, comme je le disais en introduction, les désagréments que nous pouvons rencontrer lorsque nous voyageons avec les compagnies aériennes. Soit qu'on soit en retard, que les vols soient annulés, que les bagages soient perdus. Alors il existe une réglementation très technique qu'il faut connaître, parce que ça dépend d'où vous allez, ça dépend de la durée du retard. Vous allez nous rappeler tous ces éléments grâce à ces questions d'auditeurs. Et la première est la suivante. J'ai réservé un billet d'avion pour un trajet Paris-Barcelone. La distance et les destinations sont importantes. Arrivé à l'aéroport, j'apprends une heure avant l'embarquement que le vol est annulé et s'effectuera le lendemain. J'ai sollicité le remboursement du billet et la prise en charge des frais d'hôtel. La compagnie aérienne m'indique qu'elle ne peut nous verser d'indemnisation car l'annulation serait liée à des circonstances exceptionnelles. Quels sont mes droits et que puis-je faire ?
Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que toutes ces questions relatives aux conflits, aux difficultés que vous pouvez rencontrer avec les compagnies aériennes, elles sont régies en fait par une réglementation européenne qui va s'appliquer dans tous les pays membres de l'Union européenne. c'est déjà une bonne chose à savoir, puisque c'est une harmonisation des règles, finalement.
Très bien.
Ensuite, ce qu'il faut savoir également, c'est que si vous partez, donc là, c'est le cas présent, hein, si l'avion décolle de France, ou s'il décolle d'un autre pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais qu'il atterrit sur le territoire français, vous êtes couvert par ces dispositions réglementaires européennes. Ça, c'est la première chose à savoir.
C'est très clair.
Donc, dans ce premier cas, on applique la réglementation européenne de 2004. Ensuite, effectivement, il y a des nuances à connaître, mais ce qu'il faut savoir vraiment, là, on me dit que je crois que le vol est annulé une heure avant
tout à fait.
Le départ.
Hein. C'est ça.
Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la compagnie aérienne doit vous proposer le remboursement du billet.
D'accord.
Ou, ça, c'est la base. Okay. Ou le réacheminement vers un autre vol. Donc, soit effectivement, il n'y a pas d'autre vol, c'est pas possible, donc on vous propose de vous rembourser. Soit il y a un autre vol pour la même destination, hein, évidemment, le même jour. Et dans ces cas-là, on vous propose, s'il y a de la place, de prendre finalement un autre avion. Ça, c'est les options qui sont possibles. La troisième option, c'est de vous dire, aujourd'hui, nous n'avons pas d'autres vols à vous proposer pour la destination, mais si vous le pouvez, eh bien, on peut finalement faire comme un échange de billets et vous proposer un autre vol à une autre date dans les mêmes conditions, évidemment, tarifaires que celles du billet initial. Ça, c'est la première chose. Donc, soit c'est possible. Dans ces cas-là, vous prenez un autre avion, ou on vous rembourse, ou vous n'êtes pas pressé, vous prenez un autre avion à un autre moment. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que même si la compagnie aérienne vous propose l'une de ces trois options, donc option obligatoire, hein, prévue par la réglementation, ça n'empêche pas que vous puissiez quand même, par ailleurs, être indemnisé.
Très bien.
Ça, c'est bon à savoir quand même. Alors, c'est là qu'il y a des petites nuances. Effectivement, si vous n'avez pas le droit d'être indemnisé, je vais commencer par là, parce que finalement les conditions sont assez restreintes, vous n'avez pas le droit d'être indemnisé si la compagnie finalement aérienne vous a prévenu plus de 14 jours avant le départ. Et puis, elle va aussi, et les indemnisations peuvent être également réduites si elle vous a prévenu entre une semaine et 14 jours. Donc, la réglementation européenne dit que finalement, on a le droit à la moitié de l'indemnisation prévue. Et également, si vous êtes prévenu, enfin, si on vous donne la possibilité de prendre un autre avion aux mêmes conditions tarifaires, l'indemnisation va aussi varier. Soit vous avez le droit à la moitié de l'indemnisation, réglementaire, soit aucune indemnisation si finalement vous arrivez à destination le même jour que le jour qui était prévu à l'origine et que vous n'ayez pas plus de 4 heures de retard. Si vous deviez arriver à midi et que vous arrivez à 16 heures, on va considérer que la compagnie aérienne a rempli ses obligations. Et donc là, vous n'aurez pas le droit à indemnisation. Ça, c'est, je partais de là parce que finalement, c'est assez restreint et la plupart du temps, si vous n'avez pas d'autres vols, ce qui est quand même rare, enfin souvent le cas puisque généralement les vols sont complets sur la même journée, là vous pouvez prétendre à une indemnisation et effectivement il y a des conditions. Alors la première, c'est à quelle distance se trouve la destination finale. Si la distance est de moins de 1500 km, l'indemnisation et de 250 euros.
D'accord.
Si elle est comprise entre 1500 et 3000 km, l'indemnisation est de 400 euros. Et au-delà de 3500, c'est une indemnisation de 600 euros. Alors évidemment, la compagnie aérienne ne va pas spontanément vous faire un joli virement sur votre compte bancaire.
Ah oh, bon. C'est quand même toujours le cas. Hein.
Il va falloir faire quelques réclamations. Alors, il faut toujours commencer par faut faire un écrit. Déjà, c'est vraiment la chose que je conseillerais et qu'on conseillerait à tous dans n'importe quel domaine. Faire un écrit. Vous pouvez, dans un premier temps, il faut contacter dans un premier temps la compagnie aérienne. Vous avez maintenant en ligne des formulaires pour pour faire une réclamation. Donc il faut commencer par là. Vous pouvez, et moi je conseille quand même toujours hein, de faire le fameux courrier en recommandé avec accusé de réception qui fait preuve, enfin qui fait vraiment foi. Et vous avez aussi la possibilité, si dans un délai de 2 mois on ne vous a pas répondu ou que la réponse n'est pas satisfaisante, vous pouvez écrire à la DGAC, qui est la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui peut se saisir de ces conflits-là et qui souvent va essayer de trouver une solution et qui appliquera en principe la réglementation européenne. Si tout cela ne fonctionne pas, eh bien là, c'est là que nous sommes utiles. Il va falloir venir nous voir et nous ferons évidemment, nous avocats, un courrier avec notre entête et où nous reprendrons les dispositions légales en vigueur et nous demanderons l'indemnisation. Et dans le pire des cas, nous saisirons le tribunal compétent pour obtenir l'indemnisation requise. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous êtes... Là, on parlait du cas, je crois, dans le cas précis. Hein, on est sur le territoire français, donc on n'est pas encore parti, j'ose dire.
Voilà, exactement.
Mais si on se retrouve, voilà, on n'a pas décollé. Mais si on se retrouve coincé, sur le vol retour,
plus problématique d'ailleurs.
On est coincé à Rome et puis on doit rentrer, on peut pas rentrer. Il faut savoir quand même que la compagnie aérienne a l'obligation de prendre en charge, si vous devez rester un jour, 2 jours supplémentaires, tous les frais. Donc, vous proposez un hébergement ou vous remboursez l'hébergement que vous avez dû prendre. Voilà, il y a des compagnies qui donnent des tickets restaurants, il y a des compagnies qui orientent vers des hôtels, mais sachez que si vous avez dû avancer ces frais parce que le vol a été repoussé d'un jour ou 2 jours, ils doivent vous rembourser tous les frais engagés du fait de l'annulation du vol.
C'est très clair. Merci pour toutes ces précisions. Donc, vous avez bien fait de rappeler les réglementations européennes, les obligations des compagnies aériennes qui dépendent donc du temps de retard, de l'annulation, de la distance. Et j'en profite toujours pour rappeler aux auditeurs qu'il existe des protections juridiques, des contrats de protection juridique qu'ils ont peut-être souscrits et que les protections juridiques aussi interviennent pour faire les mises en demeure. Et si ces mises en demeure n'aboutissent pas, elles envoient les dossiers à leurs avocats référent ou le client qui vient vous voir peut aussi vous désigner. Je le précise parce que c'est des contentieux assez récurrents,
oui.
Sachant que voilà, on est sur des billets d'avion, des indemnisations, voilà, qui sont plafonnées comme vous l'avez rappelé. Donc
tout à
c'est
fait.
Des litiges qu'on appelle vulgairement chez nous à petits enjeux. Donc il n'est pas inintéressant de mobiliser les protections juridiques à ce moment-là qui prennent en charge les frais de procédure. Et puis moi j'en ai fait beaucoup à l'époque, mais souvent quand on lance les assignations, curieusement, les compagnies aériennes, avant qu'on aille plaider les dossiers, sont souvent très enclines finalement à indemniser en disant bon allez, on termine avant d'avoir un jugement exécutoire et voilà.
Oui.
Donc c'est important aussi de le rappeler.
Juste, j'ai un petit point que je n'ai pas abordé, c'est les circonstances exceptionnelles. Peut-être que c'est ça que vous alliez me demander, mais dans votre question, je crois que
c'était exact, Maître Gaspari. La compagnie aérienne ne voulait pas indemniser compte tenu de circonstances exceptionnelles. Voilà. Alors ça, c'est les grands termes où ça veut tout rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Alors c'est ce qu'elles invoquent dans 90% des cas, voire plus, pour évidemment tenter de ne pas indemniser. Alors, les circonstances exceptionnelles ou la force majeure, les conditions sont assez strictes. C'est en fait des conditions un événement qui ne dépendent pas de leur volonté et contre lequel elles n'ont pu rien faire. Alors, finalement, on se rend compte qu'il y a deux choses qui sont vraiment retenues par les juridictions. C'est les conditions météorologiques. Mais encore faut-il que la compagnie aérienne apporte la preuve que précisément ce jour-là, à cette heure-là, il y avait des risques, de conditions dégradées et qui auraient pu mettre en danger la compagnie et les passagers. Donc c'est à la compagnie aérienne, hein, évidemment, d'apporter la preuve de la circonstance exceptionnelle. Donc on a parfois ce motif-là, où effectivement, si elles apportent la preuve qu'il y avait un vrai risque, ça peut être opposable aux passagers. Et la deuxième qu'on rencontre et qui voilà peut aussi être un motif de pour ne pas indemniser, c'est les conditions politiques dans le pays dans lequel on doit atterrir qui pourraient mettre en danger qui pourraient mettre en danger les passagers et la compagnie. Sachez par contre que le mouvement de grève de la compagnie aérienne ne fonctionne pas. Ce n'est pas une circonstance exceptionnelle.
Très bien, je m'en rappelais plus. Et comme ça arrive pas exceptionnellement les mouvements de grève des compagnies aériennes, pour le coup, ça ne veut rien
dire. La jurisprudence dit que effectivement, ce n'est pas que c'est à la compagnie aérienne de prendre cette disposition pour trouver une autre solution, mais ça ne peut pas être opposable aux passagers. Ce qui a été pris en compte, il me semble, par la jurisprudence, c'est par contre la grève des contrôleurs aériens. Puisque là, effectivement, c'est indépendant de la volonté de la compagnie et que ça pourrait mettre en danger les passagers. Donc là, ça peut être un motif de refus d'indemnisation. Mais finalement, c'est très encadré et encore une fois, c'est à la compagnie d'apporter la preuve de cette circonstance exceptionnelle.
Très bien, merci beaucoup pour ce rappel. Vous vouliez intervenir, Maître Balzarini-Novakovic, sur cette question ?
Très rapidement, c'est plus sur une observation que vous avez faite sur la protection juridique. Et on l'avait déjà dit la dernière fois, je le redis aux auditeurs, surtout, ne négligez pas la protection juridique. Souscrivez à des contrats de protection juridique, c'est essentiel pour assurer vos droits plus tard. Des fois, les gens se disent que ça ne sert à rien, ce n'est pas vrai. Ça paiera notamment les experts judiciaires si besoin, les premières mises en demeure, et surtout, ne vous contentez pas de regarder la somme globale de garantie, c'est pas suffisant. Allez voir et comparer les tableaux de prise en charge, les tableaux de garantie. Vraiment, souscrivez à des protections juridiques, c'est important.
Je plus sois. Et d'ailleurs, j'étais à la cour d'appel de Versailles pas plus tard qu'hier et c'est un conseiller de la mise en état qui a rappelé aux parties qu'ils avaient des protections juridiques, qu'il fallait les mobiliser. Donc tous les acteurs de la justice maintenant ont le même discours sur le recours aux protections juridiques. Une nouvelle pause musicale avant de nous retrouver pour répondre aux nouvelles questions des auditeurs.
On porte du désert à la frontière de nos interdits. Interdits. Surfer sur une mer légère quand la nuit éclaire nos folies ordinaires. Tu m'as dit oui. Tu m'as dit oui. Sur les étoiles, la nuit nous appartient. Wow. Première étreinte au matin pâle, lis ton destin au mien. Wow. Serait-ce l'odeur du soir qui tombe, l'humeur vagabonde en une seconde, je t'ai dit oui, je t'ai dit oui, pour danser au bord de ton abîme, il fallait dérive mon improbable cime, tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. Tire la nuit sur les étoiles, la nuit nous appartient. Wow. Puis au matin mettre les voiles. Plus rien ne nous retient. Wow. Viens plus près. Tendre est la nuit. À de futures caresses, un doigt sur les. Tu ironises, suspense. Tire la nuit sur les étoiles. La nuit nous appartient. au matin pâle. Lis ton destin au mien.
Vous écoutez Tous les droits, mes invités du jour sont avocats en droit civil et en droit de la consommation et nous poursuivons cette émission avec maître Julie Gaspari. Nous avons reçu une deuxième question des auditeurs pour vous. J'ai effectué un trajet en avion de Paris à Dublin. En arrivant à destination, donc à Dublin, je n'ai pas retrouvé ma valise. Elle contenait des bijoux de valeur et mon iPad. J'ai effectué une déclaration à la compagnie aérienne qui me propose une somme dérisoire à titre d'indemnisation. Est-ce que je peux engager une procédure judiciaire à l'encontre de la compagnie ?
Alors, le problème de la perte de bagages, effectivement, est aussi récurrente. Comme pour les retards et les annulations, c'est strictement encadré. Alors là, on n'est plus sur la réglementation européenne dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais sur la convention de Montréal qui a été signée, ratifiée par l'intégralité des États membres de l'Union européenne et donc qui nous concerne, nous, hein, c'est celle-ci qu'on va appliquer lorsque nous partons de France et nous, de toute façon, voilà, on va partir du principe qu'on applique la Convention de Montréal. Sachez que si ce n'est pas dans un État membre de l'Union européenne, c'est la Convention de Varsovie, mais ici, nous traiterons de la Convention de Montréal, puisque c'est celle qui nous concerne. Alors, que dit cette Convention ? Alors, premier réflexe, de toute façon, vous arrivez à l'aéroport, vous voyez que vous n'avez pas vos bagages, il faut impérativement aller au guichet de la compagnie ou au service réclamation. En fait, il ne faut pas perdre de temps, il faut vraiment, sur place déjà, faire la déclaration de perte. Parce qu'on va vous donner un numéro, on va ouvrir un dossier et la procédure va être lancée. Puisqu'en fait, la compagnie, elle se doit de diligenter une enquête. En fait, elle lance une enquête pour voir est-ce qu'on peut essayer de retrouver ce bagage. Et l'enquête commence lorsqu'on a ouvert un dossier avec un numéro de dossier. Pourquoi c'est important ? Parce qu'après, il y a un délai de 21 jours qui va s'écouler. Et en fait, pendant ces 21 jours, l'enquête doit se poursuivre. Et c'est uniquement à l'issue de ces 21 jours qu'on va pouvoir commencer à demander une indemnisation. Parce que si, au bout de 21 jours, le bagage n'est pas retrouvé, il est officiellement déclaré perdu.
21 jours,
ouais. C'est 14 sur la Convention de Varsovie, mais pour les États membres, c'est 21 jours. Donc au bout des 21 jours, vous n'avez toujours pas récupéré votre valise, on va confier à la compagnie, va dire « Très bien, officiellement, le bagage est perdu ». Là, va commencer la question de l'indemnisation. Alors, évidemment, c'est toujours compliqué parce qu'en réalité, il faut impérativement faire une demande écrite, courrier recommandé, accusé de réception. Vous pouvez évidemment, si vous avez une protection juridique, faire la déclaration de sinistre auprès de votre protection juridique qui fera le courrier recommandé en bonne et due forme. Mais en tout cas, il faut un recommandé. Et ce qu'il faudrait faire dans la mesure du possible, c'est joindre alors les factures des objets ou voilà
des bijoux.
Alors, les bijoux, c'est toujours un peu compliqué. On n'a pas toujours les factures. Enfin, ça dépend, mais ça peut être un peu compliqué. Mais ou même des photos parfois un peu pour les assurances. Mais en tout cas, le plus de documents possible pour apporter la preuve du montant des objets qui étaient dans votre valise. Ça, c'est la première chose. Encore une fois, c'est une indemnisation qui est plafonnée. Alors, c'est un petit peu particulier. En fait, l'indemnisation, elle est d'environ 1 667 €. C'est le plafond, mais il faut savoir que ça peut varier, puisqu'en fait, cette indemnisation, elle fluctue en fonction de l'unité de compte du Fonds monétaire international. C'est assez particulier.
C'est très clair ce que vous dites.
Donc ça peut être 1660, okay. Mais ça peut être 1500.
Très bien.
Ça dépend du cours du Fonds monétaire international. Mais voilà, en général, c'est autour de 1 600 €, c'est le plafond. Et encore une fois, si vous ne tenez pas satisfaction, eh bien oui, un recours en justice est possible devant les tribunaux compétents, mais en général, sur des valeurs comme ça, on arrive à trouver un accord.
Très bien. Merci pour ces précisions juridiques. Sinon, on met pas les musiques de valeur et les iPads dans les valises, quoi. Sinon, c'est un conseil tout à fait personnel.
Les iPads,
Il faut juste les montrer quand on arrive à la sécurité.
Ouais, ça y est. Parce que je sais qu'à un moment donné, il fallait enlever au moins les batteries ou, moi, j'ai déjà eu ce cas-là où on m'a demandé d'enlever la batterie de mon ordinateur.
Il y a des endroits en Inde, ils font ça, j'ai déjà eu le cas.
Alors, c'était peut-être en Thaïlande, ouais, je sais plus. Mais voilà, donc effectivement, évitez de mettre des objets de valeur dans vos valises, mais bon.
Maître Balzarino, ouais. Je voulais réagir.
Un petit conseil qu'on m'a donné que je partage très volontiers aux auditeurs parce que je trouve ça très bien pour justement parler de la preuve de ce qu'il y avait dans la valise. C'est bien le problème, des photos, ça vaut pas grand-chose quand c'est juste une photo d'un téléphone qu'on met sur une table. N'hésitez pas, quand vous êtes à l'aéroport, limite au moment où vous donnez votre valise, vous l'ouvrez. Alors je sais que ça prend, c'est un peu encombrant, mais vous l'ouvrez dans l'aéroport et vous prenez une vidéo, une photo de ce qu'il y a dans la valise. Et comme ça, vous pouvez prouver qu'au moment où vous êtes dans l'aéroport, il y a bien tous ces objets-là dans la valise.
Merci pour ce conseil avisé. Moi, si je fais ça, je repars jamais en vacances. Ma valise, je la referme qu'une fois, sinon, et en plein milieu de l'aéroport, j'arriverai jamais à la... Mais c'est un très bon conseil. Merci beaucoup pour ce conseil. Maître Gaspari, on continue avec vous. Un changement d'ambiance, on a quitté les aéroports et les vacances. Un auditeur nous a écrit pour une mésaventure sur Le Bon Coin. J'ai acheté une voiture sur Le Bon Coin le 16 octobre 2024. Sur le trajet retour, le véhicule est tombé en panne et a dû être remorqué à mes frais. Le garagiste m'indique que les travaux de réparation s'élèvent à la somme de 6000 euros, soit une somme supérieure au prix d'achat. J'ai appelé le vendeur qui refuse de me rembourser le véhicule contre une restitution. J'ai absolument besoin de racheter un véhicule pour aller au travail. Quels sont mes recours contre le vendeur ?
Alors, ce sont effectivement des situations qu'on rencontre, enfin moi, que j'ai beaucoup au cabinet, malheureusement. Et c'est vrai qu'il y a des recours, hein, évidemment, mais ça peut prendre du temps, il faut quand même le savoir. Ça peut prendre du temps et même si on obtient souvent gain de cause lorsqu'on doit aller jusqu'à saisir le juge, le temps de récupérer les fonds, ça peut prendre vraiment plusieurs mois. Faut bien être conscient de ça. Alors, lorsque vous achetez un véhicule, alors là c'est un véhicule, et que vous rencontrez ce type de difficulté, vous avez deux possibilités. Soit de demander au vendeur de prendre en charge les réparations qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement du véhicule. Soit de demander ce qu'on appelle la résolution de la vente, c'est-à-dire de casser la vente et de rendre le véhicule et on vous rend la somme que vous avez versée pour l'achat du véhicule. En général, on opte plutôt pour la deuxième option puisque si on commence à avoir des difficultés dès les premiers kilomètres avec le véhicule qu'on vient d'acheter, on peut que vous conseiller de demander la résolution de la vente. C'est vraiment une question de sécurité et pour éviter des ennuis supplémentaires. Alors, pour demander la résolution de la vente, il y a deux possibilités de fondement juridique. Voilà, sans rentrer trop dans les détails, vous pouvez soit dire que le véhicule que vous avez acquis n'est pas conforme à l'annonce ou à ce que l'on vous avait promis. Ou que il y a des vices cachés. Alors c'est l'un ou l'autre. En principe, on ne peut pas agir sur les deux fondements, même si on essaye quand même de faire valoir tous les arguments possibles pour défendre le consommateur. Les vices cachés, je vous le dis d'emblée, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'il faut apporter la preuve que le vendeur ignorait que le véhicule avait tel ou tel défaut. Alors ça peut être très facile dans certains cas lorsque il y a eu un compteur trafiqué ou voilà, mais c'est pas toujours si évident que ça, donc on favorise souvent l'autre fondement qui est le défaut de conformité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on reprend l'exemple du kilométrage, on vous a vendu une voiture qui était censée avoir 15 000 km en compteur et au final, vous vous rendez compte que compte tenu de l'état d'usure de certaines pièces, elle en a au minimum 50 ou 60 000. Voilà, ça c'est un défaut de conformité. Je simplifie, mais c'est pour voilà essayer de comprendre. Alors le premier réflexe à avoir, c'est d'appeler son assurance. Pourquoi ? Parce que ils vont mandater un expert automobile qui va, comme son nom l'indique, expertiser votre automobile et dire si effectivement l'état du véhicule est bien conforme à ce qui avait été promis. Ça, c'est la première chose. Et c'est là, souvent, qu'on se rend compte que, avec cette expertise, qu'en fait, ce n'est pas du tout conforme au, enfin, que voilà, il y a des pièces défectueuses, qu'il y a des pièces qui sont dangereuses et que donc, le véhicule n'est pas en bon état de fonctionnement. Moi, je conseille toujours, j'ai souvent conseillé de faire un autre contrôle technique parce que, vous savez, quand on vous vend un véhicule, on doit vous donner le contrôle technique, ok. Sauf que malheureusement, si on vous a vendu un véhicule qui n'était pas du tout en bon état de fonctionnement, en bon état de marche, eh bien le contrôle technique souvent, n'est pas du tout conforme et on a clairement, payé gentiment quelqu'un pour vous donner un contrôle technique soi-disant régulier. Donc souvent les clients que j'ai eu vont faire un autre contrôle technique et là en fait on va pouvoir comparer les deux et se rendre compte qu'en fait les points de contrôle ne sont pas du tout validés de la même façon sur le contrôle qu'on vous a donné au moment de l'achat du véhicule et le second. Ça c'est déjà un premier élément qui est très important si on peut pas faire l'expertise automobile, mais en général les assurances les compagnies le payent. Hein, donc ça c'est vraiment le réflexe, l'assureur et l'expert pour pouvoir voir quelles sont effectivement les pièces défectueuses et si le véhicule peut être encore utilisé, parce que moi la plupart du temps dans ces conflits là en fait on se rend compte qu'il est dangereux et que donc il faut l'immobiliser. Il faut savoir que tous les frais d'immobilisation, qu'on a engagé, on peut en demander le remboursement au vendeur en plus du restitution du prix de la vente. Hein, tout ce qui a été engagé comme frais, même le remboursement de la carte grise, enfin voilà, tous les frais annexes, le remorquage, là je crois que c'était dans la question de l'auditeur, tout ça sont des frais dont on peut demander le remboursement en plus de la restitution du prix de vente. Si effectivement, donc toujours pareil, recommandé, avec l'expertise à l'appui, le contrôle technique à l'appui, si on se rend compte que on n'a pas de réponse ou que la réponse n'est pas satisfaisante, là, effectivement, on va intervenir et on pourra aussi saisir la juridiction de proximité la juridiction compétente en fonction du montant du véhicule. Et on obtient la résolution de la vente si on arrive à prouver qu'effectivement le véhicule n'était pas du tout conforme à l'annonce. À l'annonce d'origine.
Et on peut rappeler le délai d'action.
2 ans voilà. Pour le défaut de conformité.
Voilà, donc ça fait partie aussi des points que j'aime rappeler aux auditeurs. Il y a des délais à respecter pour engager certaines actions. Et celle-ci en fait partie, 2 ans à compter de la découverte du défaut. Donc il faut l'avoir en tête et être réactif. Quand on a une difficulté, toujours se renseigner sur les délais de recours. Parce qu'une fois que le délai est dépassé, malheureusement, même si on a raison, on est forclos et les actions sont irrecevables. Oui. Merci pour ces précisions, Maître Gaspari. Je vous propose de marquer une nouvelle pause musicale avant de poursuivre notre émission avec mes invités, tous avocats au barreau du Val d'Oise.
I feel like I ran through the ceiling, the ceiling, the ceiling. No, my love had never had a meaning, a meaning, a meaning. You gave me your reason, you got me believing. You're making me say you are. I'm meaning
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. Vous écoutez Tous les droits. Mes invités du jour sont avocats en droit civil et en droit de la consommation. Et nous allons poursuivre cette émission avec Maître Vincent Paella. Nous avons reçu plusieurs questions d'auditeurs sur les contrats CCMI dont vous êtes le spécialiste. Première question, un auditeur nous écrit et nous indique qu'il a pour projet de construire une maison individuelle et qu'il envisage de passer un CCMI avec un constructeur. Comment se passe la conclusion d'un CCMI? Que dois-je vérifier avant la conclusion d'un tel contrat?
Alors, c'est beaucoup de questions et un sujet assez vaste en réalité, puisque un CCMI, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat de construction de maison individuelle. Ce qui est important de savoir, avant de conclure un CCMI, effectivement, il faut le signer avec un constructeur de maison individuelle. Car, en réalité, il y a plusieurs types de marchés de travaux ou de marchés de construction qui peuvent être passés entre un particulier donc et un entrepreneur, et notamment... On peut signer un contrat d'architecte, donc aller directement voir un architecte et puis après voir pour que cet architecte procède à l'élaboration de la construction d'une maison. On peut aussi passer par un entrepreneur directement pour passer un marché de travaux et puis on peut passer également par un constructeur de maison individuelle. Alors c'est un petit peu particulier parce qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes qui se disent constructeurs de maison individuelle et qui n'en sont pas. Et ça, c'est très important parce que, en réalité, le constructeur de maison individuelle a un certain nombre de garanties qu'il peut vous apporter, puisque nécessairement, il doit être assuré pour cette construction de maison individuelle. Et ce qui n'est pas du tout la même chose qu'un maçon ou simplement un charpentier. Ils peuvent construire, ça ne pose pas de difficulté. Néanmoins, ils ne présentent pas toutes les garanties d'un constructeur de maison individuelle. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le contrat de construction de maison individuelle, déjà, c'est un contrat écrit qui doit être signé impérativement avant le début des travaux. Et puis, c'est un contrat réglementé d'ordre public qui pose un certain nombre de garanties pour les maîtres d'ouvrage, à savoir qu'ils... précise déjà un délai de rétractation de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le contrat de construction au maître d'ouvrage. Alors évidemment, cette faculté de rétractation, elle doit être exercée par courrier recommandé également, mais c'est déjà une garantie très importante puisque parfois certains maîtres d'ouvrage vont signer un contrat de construction et puis se rendre compte que leur projet va évoluer, que peut-être qu'ils ont payé beaucoup trop cher aussi, puisque on parle de négociations commerciales avec des commerciaux qui sont très très aguerris en la matière, et puis ils ont la possibilité de se rétracter. Il y a également des garanties particulières qui doivent être souscrites par le constructeur de maison individuelle et c'est ça qui change par rapport à d'autres contrats de construction. Le constructeur doit être titulaire d'une garantie de livraison. C'est-à-dire, et ça c'est très important, que lorsque le constructeur, et puis ça arrive, puisqu'on l'a tous plusieurs fois dans nos dossiers, il y a des constructeurs qui tombent malheureusement en liquidation judiciaire alors qu'ils ont déjà commencé les travaux. Et le maître d'ouvrage se retrouve dans une difficulté très importante puisqu'il se demande comment la maison va être terminée. Et bien là, en matière de construction de maison individuelle, il n'y a pas de difficulté en réalité puisqu'il y a un garant de livraison qui va reprendre, pas lui directement le chantier, mais va désigner un autre constructeur, financer le montant des travaux si la totalité a déjà été payée par exemple, ou si simplement une partie a été payée. Enfin en tout cas, il va financer la différence de montant de travaux et puis il va permettre, en désignant un nouveau constructeur, de terminer l'ouvrage, ce qui est très important. Il doit également y avoir une garantie de remboursement lorsque le contrat de construction est signé et que des paiements interviennent avant la date d'ouverture du chantier. Alors ça, c'est très important aussi, puisqu'en réalité, bon nombre de constructeurs font signer des contrats de construction de maisons individuelles, prennent un chèque qu'ils demandent de ne pas dater au moment de la signature du contrat et puis à ce moment-là attendent que le délai de rétractation soit passé pour pouvoir l'encaisser. Ça, c'est absolument interdit puisque ça relève même du droit pénal. On a également des dispositions du code de la construction et de l'habitation qui le prévoient. Le constructeur de maison individuelle ne peut pas le faire. Il doit être également assuré au titre de sa garantie de responsabilité professionnelle et de sa garantie décennale, ce qui est également très important puisque ça permet au bien d'être couvert hein, en cas de malfaçon, si jamais il y a des désordres qui apparaissent après la livraison. Et puis, ce qui est très important également, c'est que le contrat de construction de maison individuelle doit s'accompagner de la signature d'une assurance dommage ouvrage qui permet au maître d'ouvrage de bénéficier de cette garantie une fois la livraison effectuée, c'est-à-dire que si des désordres interviennent après la livraison du bien, à ce moment-là, il suffit simplement de contacter l'assureur dommage ouvrage qui va désigner un expert qui va passer, qui va, si les désordres sont importants, proposer une indemnisation pour pouvoir permettre le financement des travaux réparatoires et le maître d'ouvrage eh bien sera garanti là-dessus. Puis après, l'assureur fera son recours directement auprès des intervenants à la construction. En matière de construction de maisons individuelles comme en matière de construction d'une manière générale, on a donc plusieurs garanties qui sont ouvertes au maître d'ouvrage, qui sont notamment la garantie de parfait achèvement. Garantie de parfait achèvement, elle permet au maître d'ouvrage de noter au moment de la livraison toutes les petits défauts qui vont être constatés et qui sont visibles en tout cas lors de la livraison. Et l'entrepreneur dispose d'un délai d'un an pour réparer ces défauts directement à ses frais. On a une garantie biennale de bon fonctionnement également, qui concerne les éléments d'équipement dissociables de la construction. Alors là, par exemple, on va parler des appareils de ventilation, on va parler des plaques de cuisson, des chauffe-eau, des éléments d'équipement qui couvrent la maison. On a également une garantie décennale. Alors ça, c'est très important. C'est cette garantie qui couvre les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs, qui le rendent impropre à sa destination. Voilà. Ce sont les désordres les plus graves, notamment lorsque les maisons s'effondrent ou lorsqu'on a des fuites en toiture, ce qu'on voit très souvent. Voilà, donc ce qui est important en matière de contrat de construction de maisons individuelles, c'est que ce contrat présente énormément de garanties pour le maître d'ouvrage. Il faut bien vérifier qu'on signe avec un constructeur de maisons individuelles et pas simplement un maçon, pas une entreprise générale de bâtiment. C'est très important parce que on a aussi des difficultés là-dessus. C'est que lorsqu'on a, par exemple, une entreprise générale qui construit une maison, eh bien, n'est pas garanti pour son activité de constructeur de maison individuelle. C'est une garantie spécifique qui doit être souscrite. Et puis, parfois, on a des maîtres d'ouvrage qui se retrouvent sans garantie d'assurance décennale, tout simplement parce que, malheureusement, les maîtres d'ouvrage n'auront pas fait le nécessaire. Voilà.
Donc, ça veut dire qu'il faut demander au CCMI de nous communiquer aussi son attestation d'assurance.
Absolument. Pour être sûr. Attestation d'assurance décennale, responsabilité civile, voilà.
Donc c'est un contrat séduisant pour toutes les garanties que vous venez de rappeler.
Absolument.
Mais qui a un coût.
Ça a un coût, évidemment.
Voilà, toujours la contrepartie. Merci beaucoup pour ces précisions. Un auditeur, alors lui, il est plus loin, il a signé le contrat de CCMI. Il nous indique que la livraison était prévue le 9 mai 2024 et qu'à ce jour, la livraison n'est toujours pas intervenue. Que peut-il faire?
Alors, c'est un cas très très courant, malheureusement, ma chère Sonia Oulad. Effectivement, on a souvent du retard dans les constructions qui peuvent intervenir à cause de énormément de causes. Alors notamment, on peut avoir des intempéries qui génèrent des retards. On peut avoir également simplement la carence du constructeur qui a d'autres chantiers, qui a des sous-traitants. On peut avoir également des sous-traitants qui tombent en liquidation judiciaire. Ça, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Et tout ça, ça retarde le temps de la construction. Alors, ce qu'il faut savoir en matière de contrat de construction de maison individuelle, c'est que le retard doit être calculé à partir du moment où, dans le contrat, vous avez un temps maximum de construction qui commence à courir à compter de la déclaration d'ouverture de chantier. C'est très important de préciser ça parce que tant que la déclaration d'ouverture de chantier n'a pas été déposée, il n'y a pas vraiment de temps qui commence à courir pour la réalisation des travaux. Et la déclaration d'ouverture de chantier, elle s'entend nécessairement après l'obtention de toutes les autorisations de construire qui sont nécessaires pour construire la maison. Alors évidemment, quand on a du retard qui est pris parce que on a, par exemple, un refus de permis de construire qui est opposé par la mairie ou tout simplement parce qu'il y a des demandes de modification de permis qui sont demandées par la mairie parce que c'est pas tout à fait conforme aux autorisations d'urbanisme de la mairie en question, et bien dans ce cas-là, ça retarde le point de départ du temps de travaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de construction de maisons individuelles, il y a des pénalités de retard qui sont prévues par la loi. Ces pénalités de retard, elles sont de 1/3 millième du prix d'acquisition par jour de retard. Alors 1/3 millième, ça paraît pas beaucoup comme ça. Alors pour donner un exemple, hein, si on construit une maison d'une valeur de 150 000 euros, TTC, évidemment, 1/3 millième de 150 000 euros, ça fait 50 euros par jour de retard. Le montant de la pénalité est effectivement pas très important. Il peut être même considéré comme dérisoire, notamment si jamais vous avez vous êtes obligé d'aller louer un appartement ou prendre une chambre d'hôtel le temps que ce soit loué. Donc évidemment, vous pouvez demander une indemnité supplémentaire en cas de difficulté devant le juge pour obtenir une indemnisation complète. Pour demander notamment la réparation du préjudice de jouissance, du préjudice moral, la perte de gains immobiliers, également le cumul du loyer avec le remboursement de l'emprunt, la perte de revenus locatifs, la perte d'un avantage fiscal aussi. Ça peut arriver. Parfois, vous investissez dans un cadre d'une loi Pinel ou Duflo, et puis qui sont des dispositifs très intéressants en matière de défiscalisation. Et malheureusement, vous pouvez pas le faire puisque vous n'êtes plus dans le délai pour le faire, puisque tous ces avantages fiscaux en fait ont des caractéristiques qui sont très très strictes évidemment, et on ne peut pas toujours, malheureusement, du fait de ces retards, en bénéficier. Donc dans ces cas-là, vous pouvez toujours demander au juge une indemnisation supplémentaire en plus des montants qui vous sont accordés à hauteur de 1/3 millième par jour de retard.
Merci pour ces précisions, Maître Vincent Paella. Deux autres questions pour vous que nous aborderons juste après une nouvelle pause musicale.
J'étais son monsieur, c'était ma madame. Je la préférais pas maquille. Cette go-là, ah ouais, c'était trop maca. Ah, elle savait comment me manier. J'avais 15 ans et un peu moins de poils. J'étais pas comme les autres gosses, moi tout seul au fond de la classe. Elle était mannequin, elle avait de la classe. Moi j'étais pas beau gosse, mais putain ce qu'on s'est aimé. J'étais son monsieur, c'était ma madame. Je la préférais pas maquille. Cette go-là, ah ouais, c'était trop macabre. Elle savait comment me manier. Je fraudais pour venir la voir dans son check-son. C'était le sujet de mes premiers sons. Ouais, ouais, ouais. On des heures sur la machine à laver. J'étais un homme, un vrai. Son boule me faisait saigner du nez. Ah ouais. J'étais son monsieur, c'était ma madame. Je la préférais pas maquille. Cette go-là, ah ouais, c'était trop macabre. Elle savait comment me manier. C'était l'amour fou, on se faisait des playlists. On refaisait le monde, on se faisait des plaisirs. On mangeait des grecs, on fumait des clopes comme des grands. On se disait, vieux, on se roulera des pelles sans les dents. Puis un jour, c'était plus la même. Elle se tapait la tête contre les murs, elle me disait, je suis malade. Je suis si laide, puis toi, de toute façon moi je te déteste. Car t'es la seule chose qui m'empêche de me jeter par la fenêtre. Ouais. J'étais son monsieur, c'était ma madame. Je la préférais pas maquille. Cette go-là, ah ouais, c'était trop macabre. Elle savait comment me manier. Puis de toute manière, elle m'avait tout pris. Mais ma mère me l'a dit, elle va te faire tomber malade. Et moi je suis tombé malade. Et même si j'ai eu du mal à le dire, j'ai dit, toi et moi c'est fini. J'étais son monsieur, c'était ma madame. Je la préférais pas maquiller. Cette go-là, ah ouais, c'était trop macabre. Elle savait comment me manier. J'étais son monsieur, c'était ma madame. Je la préférais pas maquiller. Cette go-là, ah ouais, c'était trop macabre. Heureusement qu'on s'est pas marié.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. Vous écoutez Tous les droits. Mes invités du jour sont avocats en droit civil et en droit de la consommation. Et nous continuons de répondre aux questions des auditeurs avec Maître Vincent Paella. Question pour vous, mon cher maître. J'ai besoin de financer l'achat d'une voiture et je souhaite souscrire un crédit à la consommation. De quelles mesures protectrices vais-je bénéficier? Puis-je me rétracter? Puis-je rembourser de manière anticipée?
Eh bien, mon cher confrère, c'est un contrat un petit peu particulier puisque on parle en la matière juridiquement de crédit affecté. Ce crédit affecté, il est très très encadré par la loi qui est très protectrice au profit du consommateur, notamment en prévoyant la conclusion d'un contrat qui est réglementé. Ce contrat réglementé, il doit répondre à un certain nombre d'exigences et notamment, il y a des contrats types qui ont été émis par décret il y a très longtemps maintenant, parce qu'on parle d'une loi de 1978 en matière de crédit à la consommation, mais qui est de toute façon très très protectrice du consommateur, du fait notamment de ce formalisme qui est obligatoire et puis notamment le fait d'un certain nombre de dispositions qui permettent aux consommateurs d'être protégés. Première protection, lorsqu'on souscrit un contrat de crédit à la consommation, on bénéficie d'un délai de rétractation de 14 jours calendaires, qui est un délai quand même très important, puisque quand bien même on viendrait acheter une voiture sur un montant relativement important et qu'on serait engagé par écrit, on peut renoncer à cet achat dans le délai de 14 jours. On a également des choses qui sont très importantes, notamment que on ne peut commencer à rembourser le crédit qu'à partir de la livraison du bien ou la fourniture de la prestation. Ici, on parle d'une fourniture de bien pour une voiture. Donc évidemment, si la voiture doit être livrée dans 8 mois, à ce moment-là, on commence à rembourser dans 8 mois. Voilà. C'est un dispositif qui est exceptionnel et très important pour la protection des consommateurs. Vous pouvez également rembourser le crédit affecté par anticipation, ça ne pose pas de difficulté. Et si vous remboursez la totalité du crédit immédiatement, on ne peut pas vous imputer de frais. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette question, Maître Oulad.
Merci pour ces précisions. Je vous ai écouté, j'ai bu vos paroles parce que je voudrais m'acheter une voiture aussi. Et du coup, on peut passer un crédit. Merci, Maître Vincent Paella. Dernière question pour vous. J'ai signé un compromis de vente chez un notaire pour la vente de mon appartement en mai 2024. Et aujourd'hui, 7 mois après, l'acheteur ne peut pas acheter ce bien et ne m'a toujours pas déposé une preuve de la banque pour non-acceptation de prêt. J'ai demandé en juillet par courrier recommandé à mon notaire le règlement de l'indemnité d'immobilisation prévue dans la promesse de vente, mais l'acheteur refuse de régler l'indemnité. Que puis-je faire ?
Il y a plusieurs questions dans votre question, Maître Oulad.
C'est souvent le cas dans les questions des auditeurs.
Il y a beaucoup de questions dans votre question. Alors, je vais essayer d'être synthétique. Alors, on a parlé de compromis de vente, on a parlé d'indemnité d'immobilisation. Alors, juridiquement, c'est un petit peu de la tambouille de juriste et c'est un petit peu incompréhensible pour les personnes qui ne sont pas un peu initiées. Alors, je vais essayer d'être un petit peu clair quand même pour permettre à chacun de comprendre. Il faut distinguer ce qu'on appelle la promesse de vente et le compromis de vente. La promesse de vente, habituellement, on la signe devant un notaire et c'est une promesse par laquelle le vendeur s'engage à vendre à l'acquéreur le bien immobilier. Le compromis de vente, c'est une notion qui est pas très juridique, mais c'est ce qu'on appelle chez nous, avec des termes un petit peu barbares, une promesse synalagmatique de vente. C'est-à-dire qu'on a à la fois un engagement du vendeur à vendre le bien et un engagement de l'acquéreur à acheter le bien en contrepartie. Alors, ce qui est à des incidences, évidemment, puisque en matière de compromis de vente, très souvent on les signe en agence immobilière, la vente, dès lors qu'elle est signée, dès lors que le compromis de vente est signé, on va estimer que la vente est parfaite, sous les conditions suspensives, évidemment, notamment d'obtention d'un prêt, d'obtention d'un permis de construire, etc. C'est-à-dire que dès lors que les conditions suspensives sont levées, la vente est parfaite. Il n'y aura que à repasser devant le notaire pour rédiger un acte authentique qui permettra d'effectuer les formalités de publicité foncière. Ce qu'il faut comprendre, par contre, pour la promesse de vente, c'est que cette promesse de vente, elle engage principalement le vendeur. L'acheteur s'engage à acheter, évidemment, mais en tout cas, il n'y a pas d'effet automatique de la vente. Et lorsqu'on parle d'indemnité d'immobilisation, il ne faut pas la confondre avec la clause pénale. La jurisprudence de la Cour de cassation est extrêmement claire en la matière. En matière d'indemnité d'immobilisation, on se trouve uniquement en situation de promesse de vente. Alors que lorsqu'on parle d'un compromis de vente ou d'une promesse synagmatique de vente, on parle à ce moment-là non pas d'une indemnité d'immobilisation, mais d'une clause pénale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette clause pénale, le juge peut revenir dessus, la diminuer, l'augmenter en fonction du préjudice réellement suivi. Alors qu'en matière d'indemnité d'immobilisation, elle est fixe. et elle est là pour compenser l'immobilisation du bien pendant le temps où le bien n'a pas pu être vendu. Normalement, cette indemnité d'immobilisation ou cet acompte, qui va se transformer en acompte dès lors que la vente sera signée, eh bien, il va être conservé par le notaire ou par l'agence dans certains cas, le temps que la vente définitive soit signée devant le notaire. Normalement, elle doit être signée au moment du compromis de vente, mais ou de la promesse de vente, mais parfois, eh bien, ça n'est pas le cas, tout simplement parce que l'acquéreur n'a pas les moyens de la payer, parce que le vendeur l'accepte. Et puis, bah, dans ces cas-là, évidemment, on se retrouve avec une difficulté, c'est que personne ne paye et évidemment, personne ne consigne ces sommes-là en attendant la vente. Et effectivement, dans ce cas-là, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va voir son avocat. Et on demande qu'il intervienne. Alors déjà, peut-être en écrivant un courrier à l'acquéreur, au notaire, à l'agence immobilière, bon, tout peut se faire. Mais enfin, en tout cas, je pense qu'il vaut mieux tenter d'abord une démarche amiable. Et puis si ça ne marche pas, eh bien, il y a une action en justice possible. Ce qui se passe parfois, c'est que les sommes sont consignées de chez le notaire. Et malheureusement, la vente ne se fait pas. Et personne ne récupère cette indemnité, c'est-à-dire que le vendeur ne veut pas la restituer à l'acquéreur et l'acquéreur ne veut pas qu'elle soit débloquée au profit du vendeur. Alors dans ce cas-là, on se retrouve dans une situation qui est malheureusement très très courante et qui concerne à peu près 10% des ventes immobilières, c'est-à-dire qu'on a 10% qui restent sur le compte de séquestre du notaire ou de l'agence immobilière et puis qui ne bougent plus pendant 30 ans. Et donc à ce moment-là, mais c'est réaffecté à la Caisse des dépôts principalement. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, si on veut débloquer ces sommes, eh bien, il faut aller voir son avocat pour engager une action en justice et pour permettre le déblocage de ces fonds. Voilà.
Merci pour ces précisions. Tout cela est extrêmement clair, Maître Paella. Et j'invite les auditeurs à se rapprocher de votre cabinet pour ces problématiques que vous traitez régulièrement.
Merci, Sonia.
Merci à vous. Je vous propose de marquer une nouvelle pause avant de poursuivre notre émission avec Maître Sébastien Balzarini-Noakovic.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Vous écoutez Tous les droits, mes invités du jour sont avocats en droit civil et en droit de la consommation et nous terminons cette émission avec Maître Sébastien Balzarini-Noakovic. Nous avons reçu, chers confrères, chers maîtres, des questions pour vous. La première, je souhaite faire construire une véranda. J'ai fait établir plusieurs devis et avant de me décider sur le choix de l'entreprise, je souhaite savoir quelles précautions prendre, que dois-je vérifier sur les devis et quels autres documents dois-je demander à l'entreprise avant de signer le devis.
Alors merci pour cette question qui est en réalité très complexe, comme toujours, il y a énormément de notions qui vont se recouper. Déjà, il y a la question de l'entreprise que vous allez choisir, il y a la notion du devis que vous allez signer ou non, vous allez vérifier, il y a la notion des assurances qui sont liées à l'entreprise, donc on a pas mal de notions qu'il faut essentiellement contrôler. D'ailleurs, ce sera pour la question de l'assurance, on ira surtout dans une question d'un autre auditeur tout à l'heure, dont je mettrai un peu de côté sur la première question. Déjà, une entreprise vient vous voir, vous allez voir une entreprise, il est essentiel de vérifier son état de santé financière. Donc, vous allez sur InfoGreffe, vous allez sur un site qui s'appelle Papers, qui est gratuit, vous allez avoir énormément d'informations, vous allez avoir les derniers comptes qui ont été publiés, s'ils sont publiés, vous allez voir s'il est en état de procédure de collective. Donc, en gros, si la société a toujours une existence. Il faut également contrôler depuis quand la société existe. Car il y a une pratique de quelques entrepreneurs, bien trop à mon goût, qui ouvrent des chantiers, font des devis, abandonnent les chantiers, mettent la société en liquidation judiciaire, ouvrent une autre entreprise et font comme ça entreprise sur entreprise sur entreprise. Donc et puis parfois ils changent pas grand-chose, ils vont changer par exemple un tiret. Ça va être le même nom mais avec un point, un tiret, une lettre qui change. Donc au niveau du consommateur, on se rend pas compte. Donc c'est important d'aller vérifier sur internet qui est cette entreprise? Qui sont les dirigeants? Est-ce que, par exemple, si le dirigeant, c'est vraiment la personne qui est en face de soi, c'est mieux que s'il a mis sa femme, ou s'il a mis son fils, ou s'il a mis quelqu'un, un tiers, qui finalement n'est pas la personne qu'on a en face de nous. On peut vérifier aussi si c'est une grosse entreprise. Est-ce qu'il a beaucoup de salariés? Est-ce que c'est une entreprise qui a pignon sur rue? Alors forcément, plus l'entreprise est grosse, plus le devis risque d'être cher, puisque ça veut dire que ses charges personnelles augmentent. Néanmoins, ça garantit d'avoir une entreprise qui est sérieuse et qui va vous faire un travail jusqu'au bout. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de petits artisans qui vont faire un très bon travail, mais malheureusement, beaucoup de personnes sont sans foi ni loi et vont mettre à mal énormément de chantiers, et des gens vont mettre sur la table toutes leurs économies, les économies d'une vie, et vont les perdre dans un abandon de chantier. Donc, une fois qu'on a vérifié qui est cette entreprise, l'entreprise va venir chez vous et va vous faire un devis. Alors, sur ce devis, c'est pareil. Si le devis est un gros devis général avec quelques lignes, avec des forfaits en disant salle de bain, point, fuyez.
C'est clair.
La première chose à faire, c'est vérifier le détail. D'ailleurs, c'est obligatoire, c'est la loi qui l'impose. Il faut que le devis soit détaillé. Alors oui, les entreprises n'aiment pas ça parce que ça prend du temps, donc ça leur coûte cher à faire. Mais c'est essentiel, il faut qu'il y ait tout le détail de tout ce qu'ils vont mettre. Et surtout, éviter les forfaits. Chaque ligne a son prix. Il faut contrôler les prix, et ça vous servira en cas de contentieux pour pouvoir évaluer. S'il y a un énorme devis en disant tout ça coûte 15 000 euros, comment savoir finalement, quand il va abandonner le chantier, quelle part du devis a été fait et quel prix il a. Donc en cas de contentieux, c'est important d'avoir du détail, et naturellement, les entreprises sérieuses, bien souvent, font des détails spontanément. Donc dans le devis, vous devez vérifier toutes les mentions légales. Donc est-ce que l'entreprise a bien mis son SIRET, son adresse, tout ça c'est encadré par la loi, bien sûr, c'est les choses qui sont obligatoires, les coordonnées postales, les coordonnées téléphoniques, l'adresse électronique. Tous ces éléments qui sont essentiels pour pouvoir identifier les entreprises, puisque ça arrive que des clients viennent et me donnent un devis, et quand je regarde dessus, finalement, il n'y a aucune information essentielle. On a beaucoup de mal à identifier qui est l'entreprise. Même parfois, on a une contradiction entre l'entreprise qui est en tête et l'entreprise qui est en pied de page, où du coup, on ne sait plus exactement avec qui on traite. Donc, savoir si le devis est suffisamment détaillé, est suffisamment sérieux, vérifier sur Internet les avis, puisqu'il peut y avoir des avis Google, des avis sur certains sites spécialisés sur cette entreprise, et aller voir toutes ces mentions obligatoires sur le devis. Ensuite, lorsque vous avez vérifié tout ça, faites-vous confiance. Si vous vous rendez compte que la personne a une attitude particulièrement bizarre, force la vente, essaye d'être quelqu'un comme un beau parleur, alors méfiez-vous. Méfiez-vous, les artisans sérieux sont particulièrement en train de vous présenter leurs produits, et n'essayez pas de vous forcer des ventes à tout prix. Ce n'est pas, méfiez-vous des commerciaux plus que des artisans. Ensuite, vous avez la question des assurances. Et ça, c'est un point qui est aussi crucial. Les artisans doivent être couverts par une assurance décennale. Alors, l'assurance de responsabilité civile professionnelle n'est pas obligatoire, mais l'assurance décennale est bien souvent obligatoire. Et cette assurance décennale est trop peu vérifiée par mes clients. Je vais empiéter peut-être sur la question d'après, ou alors est-ce qu'on
oui,
les fait en même temps.
Eh bien, écoutez, voilà, je précise aux auditeurs, vous avez raison, un second auditeur nous a écrit et il a une question qui est relative à ses attestations d'assurance, parce que lui, il a acheté un bien immobilier, il a voulu rénover intégralement son bien immobilier et a fait appel à une entreprise générale de bâtiment, et il nous a demandé quelle mention il devait vérifier dans l'attestation d'assurance décennale.
Je vous remercie. Et donc du coup, on va aller sur cet élément-là, l'assurance décennale. L'assurance décennale, elle est fournie souvent directement avec le devis. Des fois, c'est pas le cas. Si vous commencez à devoir courir après l'entrepreneur pour obtenir son assurance décennale, c'est déjà mauvais signe. Ensuite, lorsqu'on vous fournit une assurance décennale, il ne faut pas simplement se dire « c'est bon, je vois l'attestation, ça veut dire qu'elle est là ». Il y a beaucoup de choses à vérifier. Déjà, est-ce que c'est une vraie ? Ça peut être une fausse. Donc, oui, ce serait un faux usage du faux, mais ça arrive beaucoup trop souvent. Donc, dans ces cas-là, quand vous avez l'assurance, vous appelez l'assurance. Vous appelez l'assurance et surtout vous n'appelez pas le numéro qui est dessus. C'est comme pour les quand on vous donne un chèque de banque, vous n'allez pas appeler le numéro qui est sur le chèque de banque, parce que si c'est un faux, rien ne nous dit qu'il a pas mis un faux numéro avec un complice de l'autre côté. Donc vous appelez l'assurance avec un numéro que vous trouvez sur internet et vous allez vérifier si le contrat a bien été souscrit, s'il est vrai. Vous allez vérifier la période de souscription et vous allez vérifier si donc l'assurance qu'on vous donne est vraie ou pas. Attention, au niveau de la date, il faut que le jour d'ouverture du chantier soit inclus dans la période de souscription. Sinon, il n'y a pas d'assurance. Et ensuite, il faut vérifier qu'est-ce qui est assuré dans cette assurance. Puisque ça arrive, également encore bien trop souvent. Par exemple, quelqu'un a une entreprise de toiture et va dans votre devis vous faire de la maçonnerie. Et donc, il va vous monter des murs et il va faire le toit en même temps. Sauf que dans l'assurance décennale qui souscrit habituellement, il y a uniquement la couverture et l'étanchéité. Donc il n'y a pas la maçonnerie dans son assurance. Donc vous, en tant que particulier, vous pensez que vous avez une assurance décennale, mais en réalité, vous n'en avez pas. Parce que la question des maçonneries n'est pas couverte dans votre assurance. Donc c'est très important d'aller vérifier toutes les lignes de l'attestation. Et si c'est pas précisé, parce que ça arrive, vous demandez le détail ou vous appelez l'assurance pour avoir le détail. Parce qu'il faut que tous les travaux que vous faites dans votre chantier soient couverts dans cette assurance. Donc une fois que vous avez vérifié tous ces éléments-là, déjà vous pouvez être rassuré. Vous avez une entreprise qui est sérieuse, qui a un devis sérieux, avec une assurance décennale qui est sérieuse. Le mieux, c'est une grosse assurance, bien sûr, les assurances plutôt connues. Maintenant, toutes n'ont pas le même prix et on choisit pas. C'est vraiment l'entrepreneur qui prend son assurance. Quand vous pouvez, l'assurance dommage d'ouvrage, c'est quelque chose aussi qui est très conseillé parce que souvent il y a des assurances plus sérieuses que d'autres, et quand vous choisissez votre propre assurance dommage d'ouvrage, vous avez l'intégralité qui est couverte par une assurance que vous choisissez. Donc bien sûr, ça dépend de la taille du chantier que vous allez faire. Plus votre chantier est important, plus ça vaut le coup de prendre une assurance dommage d'ouvrage. Ça a un coût. Mais c'est le coût de la sérénité et c'est le coût finalement d'une garantie de pouvoir réparer derrière les désordres que vous allez pouvoir avoir. Néanmoins, toutes ces garanties, tout ça, dépend de la réception du chantier. Car aujourd'hui, et de plus en plus souvent, les chantiers sont abandonnés en cours de chantier. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique parce que, et je vais peut-être pas y aller tout de suite sur cette question-là, puisqu'il y a un autre auditeur qui nous a posé cette question, mais c'est vraiment un cas très très difficile.
Mais vous avez raison d'avoir rappelé l'intégralité des points à vérifier lorsqu'on se rapproche d'une entreprise. Je précise que ces questions, enfin en tout cas le sujet de l'émission, c'est vous qui me l'avez suggéré. Parce que vous teniez vraiment à faire de la pédagogie et de la prévention auprès de nos auditeurs, parce que c'est souvent quand on a des projets immobiliers, qu'on veut faire des travaux à la maison, on est toujours dans une espèce d'euphorie, on a envie que ça avance vite. Et puis quand les problématiques arrivent, on se dit bah c'est ballot parce qu'on aurait quand même pu se renseigner sur un minimum de choses. Alors je crois beaucoup à cela, moi, quand ça fonctionne aussi par bouche à oreille, quand les entreprises sont venues bosser chez des gens qu'on sait qu'elles travaillent bien. Alors vous hochez de la tête Zarini Nouakovic, mais quand les travaux se sont souvent bien passés chez quelqu'un et que cette entreprise a bossé sur des, c'est quand même aussi un gage, sous réserve effectivement qu'on vérifie l'intégralité des points que vous avez rappelé et que vous fassiez confiance. Et ça, on n'en parle pas assez souvent, et je vous remercie de l'avoir suggéré. Vous avez parlé de l'intuition des clients qui souvent aussi a posteriori nous disent ah, je le sentais pas, j'aurais dû me faire confiance. Donc vous avez raison, mais vous ne partagez peut-être pas mon avis sur les sociétés qui ont bossé chez les voisins ou les copains.
Si c'est bien, mais malheureusement c'est pas tout le temps c'est pas une garantie.
Très bien, merci pour ces précisions. Alors peut-être une petite aparté là, parce que du coup donc on parle des sociétés voilà, qu'on va vérifier sur Infogreffe ou sur Papers, ou dont on a eu les coordonnées. Mais je pense aussi au cas très particulier des ventes en foire, parce que souvent quand on va dans des foires, on peut aussi souscrire des contrats avec des chauffagistes, des gens qui font des salles de bain. Et là, pour le coup, on n'a pas le temps de faire toutes ces vérifications. Est-ce que vous avez quelques petits conseils rapides à donner aux auditeurs qui se déplaceraient en foire et qui envisageraient de passer des contrats avec des entreprises sur foire?
Tout à fait. Moi personnellement, je suis pas du tout pour la souscription en foire. En effet, il y a des prix foires. Il y a des prix foires, ça vaut le coup. Il y a souvent des prix très très attractifs. Néanmoins, dans les clauses des contrats de foire, ce sont des clauses particulières qui peuvent complètement enlever le délai de rétractation. Et donc, quand on s'engage à signer en foire, on s'engage définitivement. Et donc, ça ne permet pas cette réflexion, ça ne permet pas une étude suffisamment approfondie qui peut être sécurisante. Donc, sachez que si vous voulez avoir des prix très intéressants, oui, vous aurez des très très bonnes occasions en foire. Néanmoins, il faut être sûr de soi. Il faut être sûr de soi, il faut être sûr de l'entreprise qu'on a en face de soi, et c'est pas toujours le cas. Donc, surtout, ne vous jetez pas sur les offres très attrayantes, ne vous jetez pas sur les premières offres que vous allez pouvoir voir en foire, et préférez parfois prendre les informations, prendre les coordonnées de l'entreprise et de les contacter par la suite en dehors de la foire.
Moi, je vous remercie pour toutes ces précisions et ces conseils. Je vous propose de marquer une dernière pause avant de terminer notre émission avec vous, Maître Balzarini Nouakovic, pour les dernières questions de nos auditeurs.
Merci. IDFM Radio, 98 FM.
Vous écoutez Tous les droits. Mes invités du jour sont avocats en droit civil et en droit de la consommation. Et nous terminons cette émission avec Maître Sébastien Balzarini Nouakovic qui répond à cette dernière question d'auditeur qui va nous permettre d'aborder une notion très importante qui est celle de la réception. Alors, l'auditeur nous écrit « J'ai confié au courant de l'été à un entrepreneur le soin d'édifier une piscine dans mon jardin. J'ai réglé à titre d'acompte plus de 40% du montant du devis. Les travaux sont interrompus depuis le mois d'octobre et l'entrepreneur ne me répond plus. Quels sont mes recours ?»
Alors, on est dans une situation qui est assez complexe. Déjà, la première question à savoir, c'est est-ce que l'entreprise est dans une situation financière difficile ou pas. Donc immédiatement, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, vous allez sur Internet, vous allez sur Papers, Infogreffe, et vous vérifiez si une procédure de procédure collective a été mise en place. Si une procédure collective a été lancée, attention, vous avez un délai de 2 mois pour déclarer votre créance. Ne l'oubliez pas, sinon vous ne pourrez plus faire de demande contre l'entreprise par derrière. Donc, vous faites votre déclaration, d'ailleurs pendant le temps du chantier, ce sont des chantiers plutôt longs, allez vérifier régulièrement les états de santé des entreprises. C'est important. Donc si l'entreprise est toujours en activité, vous lui faites une mise en demeure où vous l'enjoignez à reprendre le chantier. Cette mise en demeure nous servira derrière pour obtenir une exécution forcée ou une résolution de votre contrat en fonction du choix procédural que vous allez faire. Et ça, je vous invite à aller voir votre avocat pour pouvoir développer ces questions-là. Vous pourrez faire une exécution forcée, vous pouvez faire les travaux aux frais de l'entreprise, vous pouvez demander une réduction du prix, d'où l'importance de bien faire attention au devis, puisque plus le devis est détaillé, plus la réduction du prix sera facile à obtenir et à chiffrer. Vous pouvez donc résoudre le contrat et vous pouvez demander une réparation de préjudice, parce que malheureusement, souvent lorsque le chantier est abandonné, on peut trouver un certain nombre de malfaçons en plus de l'abandon de chantier. L'abandon de chantier, lorsque l'entreprise a déposé le bilan, c'est une catastrophe. Parce que vous n'avez pas de réception. Et s'il n'y a pas de réception, il n'y a pas de garantie décennale, il n'y a pas de garantie de dommage ouvrage. Lorsque vous avez un abandon de chantier, je dis toujours à mes clients, faites tout pour essayer de faire revenir l'entreprise sur le chantier. Faites en sorte que ça avance, faites en sorte d'arriver jusqu'à une réception pour pouvoir avoir une réception. C'est essentiel. J'ai bien trop de clients qui se retrouvent dans une situation dramatique avec des maisons entières qui sont parfois à démolir, parfois à refaire totalement et sans aucun recours derrière, uniquement parce qu'ils n'ont pas de réception de chantier. Donc bien choisissez très bien vos entreprises, faites attention et derrière ça, essayez à tout prix d'obtenir une réception de chantier. Et d'ailleurs, dans la réception de chantier, attention, lorsque des désordres d'ordre décennal, donc qui atteignent à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination, sont mises dans le PV de réception, ils ne sont pas non plus garantis s'ils ne sont pas repris. Donc, attention à cela également, le PV de réception que vous allez signer est aussi essentiel. Donc, vous allez, lorsque un abandon de chantier est fait, vous avez beaucoup de choix. Et là, encore une fois, on parlait de la protection juridique. Vous pouvez commencer par contacter votre assurance de protection juridique. Vous pouvez contacter votre avocat. Mais en tout cas, il ne faut pas rester sans rien faire. Ne laissez pas traîner le temps. Il faut agir immédiatement. Immédiatement faire des mises en demeure. Immédiatement essayer d'attraper l'entreprise. Le faire revenir sur le chantier. Attaquer avec un avocat l'entreprise en référé pour faire une action, donc comme je vous dis tout à l'heure, peut-être éventuellement les faire revenir de force. Et donc c'est là l'important de faire la mise en demeure avec l'obligation de revenir sur le chantier pour éventuellement déclarer judiciairement l'abandon de chantier. En tout cas, beaucoup de choses sont à faire, mais les abandons de chantier, c'est un fléau actuellement. Et aujourd'hui, on est sur beaucoup de cas d'entreprises, comme je vous disais tout à l'heure, qui... et abandonnent des chantiers, mettent leur entreprise en liquidation judiciaire et derrière montent des nouvelles entreprises en laissant seulement les gens dans leur désespoir. Et il faut qu'une loi passe, il faut que l'État fasse quelque chose sur le sujet, puisque les entreprises n'ont aucune responsabilité à titre personnel. Les entrepreneurs sont complètement libres, sauf sur la question, par exemple, lorsqu'ils ne souscrivent pas à des assurances décennales qui sont obligatoires, parce qu'on pourrait les poursuivre sur certains points, comme le délit de non-souscription à une assurance obligatoire, qui est d'ailleurs un délit qui est bien trop peu connu des services de police, qui souvent nous disent que c'est du civil, alors que non, c'est bien du pénal. Et donc, qui nous permettrait, du coup, d'aller chercher l'entrepreneur en son nom personnel. Et dans l'esprit commun des gens, on se dit, mais de toute façon, il y a le délit de cavalerie. Si jamais l'argent que je lui donne est utilisé sur un autre chantier, alors de toute façon, je le récupérerai. Et malheureusement, le délit de cavalerie a une jurisprudence qui évolue fortement depuis ces dernières années et qui n'est pas en faveur des consommateurs, puisque lorsque l'entreprise ou l'entrepreneur prouve que il avait l'intention de faire le chantier et que finalement les circonstances font que leur emploi du temps ne l'auront pas permis de venir sur le chantier et que l'argent est parti chez des créanciers, même s'il y a des chantiers, j'ai eu des chantiers comme ça à hauteur d'un million, un million cinq, qui ont été donnés. Ça, je parle que de la compte du chantier, où l'entrepreneur a uniquement mis une palissade et parti. Il a prouvé au juge que il voulait venir sur le chantier, mais il n'a pas pu. Et alors que rien n'a été fait sur le chantier, le délit de cavalerie n'a pas été reconnu, alors que on voit bien que l'argent est immédiatement parti chez d'autres créanciers. Donc, il faut faire attention et ne pas signer de contrat à la va-vite et avec n'importe qui.
Et alors, oui, rappelez toujours cette importance de forcer la réception qui, elle, déclenche les garanties des compagnies d'assurance. Et sinon, c'est ce que vous avez rappelé. Quand on a cette réception, on a les assureurs derrière. Et quand on n'a pas cette réception, alors après, on peut aussi parler des cas de réception tacite, qui est une notion juridique très particulière. Mais il faut que les travaux soient en très avancé, que la somme qui était débloquée par le client soit très importante. Et après, c'est des débats, malheureusement, qui sont portés devant le juge. Donc, c'est-à-dire que le contentieux est lancé par le client et donc la bataille se joue après sur des fondements juridiques avec les entreprises, les compagnies d'assurance et votre avocat.
C'est ça. Mais la réception tacite et la réception judiciaire, c'est en matière d'abandon de chantier, c'est extrêmement difficile à obtenir parce que les critères sont très très précis et il faut vraiment, comme vous le disiez, un avancement du chantier qui est significatif et c'est pas souvent le cas.
Et d'où l'importance de s'adresser à des avocats qui interviennent dans ces spécialités. Merci à vous trois d'avoir été mes invités du jour. Maître Julie Gaspari, Maître Vincent Paella et Maître Sébastien Balzareni-Nouakovitch. Je rappelle que l'émission Tous les droits est une émission par vous et pour vous. Je recevrai le premier lundi de chaque mois des avocats du barreau du Val d'Oise qui répondront à vos questions parce que nul n'est censé ignorer la loi et que vous devez connaître tous vos droits. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Francky pour la technique. Cette émission vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast sera disponible sur le site de la radio idfm98.fr. À très vite pour un nouveau numéro de Tous les droits sur IDFM Radio 98FM. Belle journée et très belle semaine.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir, merci beaucoup Sonia.